Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean Lévy, qui publie « La Chine est un cheval et l'univers une idée » chez Maurice Nadeau. Ce qui distingue peut-être notre époque de toutes celles qui l'ont précédée, c'est que le pouvoir de la parole et la parole du pouvoir ont fini par coïncider. C'est pas facile de vous présenter, Jean Lévy, parce que vous ne respectez pas les genres institués. Vous écrivez aussi bien des romans, des nouvelles, que des essais, quand vous ne faites pas des traductions. Mais si on dit que vous êtes sinologue, on en a déjà dit pas mal. Hein. La Chine, c'est quand même le grand territoire où tous ces livres que j'ai cités reviennent.
Oui, en effet. Oui, c'est un point de convergence et c'est à partir de la Chine que je mène mes réflexions. Même si parfois j'ai l'air de m'en écarter, malgré tout, j'y reviens d'une certaine façon.
Par exemple, dans le livre dont nous allons parler ce soir, « La Chine est un cheval et l'univers une idée », il y a par exemple un long essai qui d'ailleurs porte le titre que vous avez donné à l'ensemble du volume « consacré à Musil, qui n'est pas chinoise,
pour autant que je sache. Mais c'est à partir de Musil que je conduis ma réflexion et sur la perversion des catégories du langage et où cette perversion peut conduire. Et à partir, disons, d'une réflexion sur le roman de Musil, qui est pour moi une sorte de méditation sur le langage et la façon de se servir de langage et en même temps de le dévoyer, à partir, disons, de Musil, j'arrive à montrer qu'il y a des ponts qui peuvent être établis avec la façon dont, en Chine, à un moment donné, juste avant l'instauration d'un pouvoir totalitaire, il y a eu, de la part d'un certain nombre de gens, des sophistes, une manipulation, une perversion du langage. Mmh. Et c'est donc à travers ce jeu sur le langage et la position qu'on a pris vis-à-vis du langage à une certaine époque, ou à deux époques très éloignées du temps et en même temps de l'espace, que je montre qu'il y a des points communs.
On peut dire que pour vous, tous les chemins mènent à la Chine, ceux de l'histoire, ceux de la géographie, ceux de la littérature, mais qu'il s'agit ensuite d'en sortir.
C'est cela, c'est-à-dire que c'est plutôt tous les chemins se croisent à un moment donné ou se retrouvent en Chine, mais ce n'est pas pour en faire le point d'aboutissement, c'est plutôt pour, en quelque sorte, établir une sorte de va-et-vient entre notre civilisation et la civilisation chinoise, et voire même aborder d'autres questions, d'autres problèmes, et aussi voir comment d'autres civilisations ont résolu les questions qui se sont posées aussi bien à la Chine qu'à l'Occident.
Et tous ces problèmes, toutes ces questions, vous les retrouvez aussi dans votre œuvre littéraire, alors dans les romans et les nouvelles que vous avez publié jusqu'à présent ?
Oui, je pense. C'est-à-dire que pas mal de mes romans ont pour théâtre la Chine, mais pas toujours. Et ceci dit, je me suis intéressé beaucoup à la question du totalitarisme. Et donc, la Chine a été, disons, un domaine ou un théâtre privilégié pour voir comment les rapports de pouvoir se sont instaurés et comment le jeu du pouvoir en Chine, particulièrement avec l'instauration du premier empire centralisé. J'ai écrit un livre sur le grand empereur, celui qui a construit la Grande Muraille, celui qui s'est entouré, paraît-il, des soldats de terre cuite, de cette gigantesque armée. et qui, en quelque sorte, est le créateur de l'Empire de Chine et de la Chine telle qu'elle s'est perpétuée pendant 2000 ans.
Alors, le livre dont nous devons parler ce soir, La Chine est un cheval et l'univers une idée, est sous-titré Essai au pluriel. C'est un recueil ?
Oui, c'est un recueil d'essais, mais je pense que à travers des points particuliers, se dessine tout de même un tableau d'ensemble. C'est plutôt comme des prismes. C'est une vision prismatique de la Chine où, à travers un problème particulier, se dessine, à ma vie, comme dans une mosaïque, un tableau d'ensemble. Et il y a un ensemble et une unité dans la diversité.
Et l'unité est donnée, entre autres, par un cheval. Le cheval qui donne son titre au livre.
Oui, oui, on peut le considérer comme une sorte de cheval de bataille ou de guide. Ou de... En tous les cas, c'est à travers, disons, le cheval blanc qui ouvre, en quelque sorte, le livre dans le titre, que se définit une problématique qui traite et du problème du langage et du problème du faux et du vrai et du mensonge dans les sociétés, enfin dans toutes les sociétés en fait.
Ce titre-là, c'est une citation qui vous l'a donné, hein, une citation de Chuang Tzu où les sophistes sont tournés en ridicule.
Voilà, c'est-à-dire que ça fait allusion au plus célèbre sophisme de la Chine ancienne où un certain Gong Sunlong a démontré très brillamment qu'un cheval blanc n'était pas un cheval.
Et, avant Magritte.
Oui, voilà. Une pipe. Et, cela n'est pas une pipe.
Ouais. Et à travers le pastiche de l'argumentation sophiste, c'est le langage humain, donc votre cheval de bataille préféré, en tant que tel, qui est disqualifié.
Qui n'est pas disqualifié tout à fait, mais qui est mis en cause et qui est dénoncé comme établissant des catégories arbitraires au sein d'une réalité qui est continue et qui est mouvante. Et ces catégories arbitraires sont là pour, en quelque sorte, établir une distance entre un sujet et un objet. Et pour Zhuangzi, à partir du moment où il y a sujet et objet, il y a nécessairement une relation de domination qui s'établit, et à partir du moment où il y a domination, il y a nécessairement tyrannie.
Donc pour dire la réalité continue, on a à sa disposition que du discontinu, c'est-à-dire le langage.
Voilà, c'est cela, l'idée.
Les essais que vous avez rassemblés, par-delà donc leur diversité apparente et les sujets que vous abordez, s'emploient à chercher l'identité de la différence plutôt que la différence de l'identité, annoncez-vous au début.
Oui, c'est-à-dire que j'entends dire que derrière une diversité apparente, je cherche non pas à creuser cette différence, mais en quelque sorte, au contraire, à trouver un point commun et à montrer comment des phénomènes qui ont l'air en apparence totalement dissemblables reposent finalement sur des présupposés communs ou sont assez voisins.
Donc c'est une adéquation que vous cherchez ?
Pas réellement une adéquation. Je cherche, si vous voulez, un rapprochement possible. C'est des comparaisons entre des objets à première vue incomparables. Et disons justement, si j'étudie la Chine et si parfois je prends, disons, comme point de départ ou comme point d'arrivée à partir de phénomènes très différents qui se situent en Occident ou au contraire qui ont pour point de départ la Chine, c'est toujours pour chercher les similitudes.
La Chine comme civilisation à la fois archaïque et avancée.
Oui, pour moi, c'est une civilisation archaïque parce que, disons, les moyens de production sont tout de même encore très rudimentaires à l'époque que j'étudie la plupart du temps, c'est-à-dire le 4e, 3e siècle avant notre ère, mais en même temps qui peut servir, comme dans un laboratoire, à voir et à disséquer des phénomènes qui sont à l'œuvre dans des sociétés comme les nôtres.
Et chemin faisant, d'un texte à l'autre, on trouve beaucoup d'interrogations sur les effets nocifs du langage en tant que véhicule et produit de la pensée séparée.
Oui, la pensée séparée, c'est-à-dire qu'il y a toujours une distance qui s'établit entre un sujet et un objet, et finalement on arrive à un monde qui est un monde fragmenté, et un monde qui est celui de la division, de l'exclusion et du rejet de l'autre.
Le premier texte du volume a un titre de roman, hein, Le Grand Empereur et les Guerriers d'Argile.
Oui, et c'est un peu construit à la façon d'un apologue, d'une fable, c'est-à-dire que au début, on a une sorte de récit sur le grand empereur,
un peu le constructeur de la
grande muraille, celui qui a fondé, en quelque sorte, unifié la Chine.
Et, un massacreur de lettrés.
Il a massacré les lettrés, mais il a aussi tout de même créé il a unifié les poids et les mesures, il a instauré des lois rationnelles, enfin, il a un double visage.
Il a unifié les caractères d'écriture.
Il a eu un rôle très très important. Mmh. Il a aussi organisé l'État.
Donc on peut placer son règne sous le double signe de la démesure et de la contradiction.
Oui, c'est-à-dire qu'il est à la fois rationnel et fou. Il a un rôle, en certaine façon, positif, dans la mesure où il a unifié la Chine, où il a rationalisé l'État, mais en même temps, il a eu un rôle effroyable en même temps.
Alors que l'idée de la mort lui faisait horreur.
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, il s'est construit une espèce d'énorme tombeau.
Ouais. Et il a essayé avec du personnel. 700 000, je crois, 700 000 soldats ont travaillé.
Oui, forçats. Oui. Ont travaillé à l'édification de son tombeau. Et en même temps, il cherchait à devenir immortel. Il a recherché l'herbe d'immortalité. Il a lancé des expéditions pour trouver les îles des immortels et qu'on lui rapporte l'herbe d'immortalité. Donc, il était hanté par l'idée de sa finitude.
Et il a fait régner l'uniformisation, la standardisation, les normes, l'ordre.
Donc, l'ordre.
Un contemporain, au fond.
Oui. Il était absolument obsédé par l'idée d'instaurer le règne de la nécessité pure dans le monde, qui est même un monde chaotique et désordonné, qui est le monde humain.
Et vous rappelez Jean Lévy qu'en mai 1974, c'est-à-dire juste à la fin de la Révolution culturelle, était mise à jour l'immense cohorte des guerriers de terre cuite qui gardaient le tombeau. Et là, des surprises nous attendaient.
Voilà, une fois que je raconte l'histoire de cet empereur avec toutes ses contradictions, tout d'un coup il y a une sorte d'épilogue, mais qui en même temps est le sens de toute la fable. C'est la découverte de ces guerriers d'argile, et pour moi, disons, le coup de théâtre, c'est que ce sont des faux. Elle est entièrement fausse. Et disons, j'en ai pas eu tout de suite la conviction. Je l'ai compris vraiment. Je pensais que c'était des statues refaites, entièrement refaites, parce qu'elles sentent tout de même le faux. Mais quand je suis allé en 1986 à Xi'an et que j'ai contemplé cette armée, j'ai compris qu'il s'agissait visiblement d'une falsification sur une très très grande échelle.
Et ça, vous l'avez vu à quel signe?
À ce moment-là, j'ai compris d'abord que c'était toute une mise en scène. D'autre part, que les statues ne correspondaient absolument pas, on s'en rend compte vraiment quand on est prêt, qu'elles ne correspondaient à aucun modèle antérieur ni postérieur, qu'elles étaient uniques en quelque sorte, et que d'autre part, leur facture était visiblement moderne. Mmh. Enfin, pour moi, ça évoquait irrésistiblement l'art
industriel.
Ah oui, d'abord industriel et puis le réalisme socialisme.
Oui. Mais c'est une falsification qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Mais
oui, c'est ça qui est tout de même. Donc ça pose de tas de problèmes. Ça pose le problème du statut du faux, de l'impossibilité à notre époque de distinguer la réalité d'un ersatz. Et d'autre part, l'impossibilité d'avoir un jugement esthétique. Oui. Car il s'agit nullement, de ma part, d'une d'une déduction, d'analyse en quelque sorte physico-chimique. C'est uniquement des considérations stylistiques et esthétiques qui me font dire que ce sont des faux.
Oui. C'est-à-dire que la quantité a ici remplacé la qualité.
Exactement. C'est un art de masse, produit en série, et qui donne un sentiment de gigantisme qui doit correspondre à quelque chose du goût de notre époque, en raison même du caractère massif.
Tout ça, évidemment, ça donne à réfléchir, et en particulier sur notre indépendance de jugement.
En effet, puisque finalement, c'est la parole d'État qui devient parole d'Évangile. C'est parce que l'État chinois a décrété que c'était des statues authentiques qu'il a pu, en quelque sorte, imposer cette armée comme l'une des je crois que c'est devenu l'une des merveilles de l'humanité.
Et alors, si on pousse la réflexion un peu plus loin, est-ce qu'on ne peut pas dire que, d'une manière générale, nous vivons dans un monde façonné par des faussaires?
Oui, c'est mon idée. Oui, c'est ce que je crois que je conclue plus ou moins sur cette phrase. Et on vit dans un monde, effectivement, qui est le monde de l'ersatz, où il n'existe plus que des simulacres de la réalité.
Alors là, on était dans le monde du grand. Il y a un autre texte qui parle des petits, les petits mondes du dictateur.
Alors, les petits mondes du dictateur, c'est un peu la contrepartie du grand empereur et de ses guerriers d'argile, parce que c'est une réflexion finalement sur qu'est-ce que c'est que la tyrannie. Et là, je pars d'une réflexion d'un russe, qui est Brodsky, qui parle de la tyrannie et qui fait remarquer que le regard porté sur soi est un regard qui est distrait du monde. Et je montre le contraire. Je montre ce qui caractérise la dictature, c'est que tout regard porté sur soi est encore un regard porté sur le monde, car le dictateur, le tyran, est celui qui réduit le monde à son propre corps.
Donc il n'est pas pressé de disparaître.
Ah, il n'est pas pressé de disparaître. Et disons, en même temps, il occupe tout l'espace social. C'est-à-dire que finalement, son fonctionnement organique devient le fonctionnement de la société elle-même. D'où une sorte de délégation totale de la volonté du corps social dans le corps du souverain.
Et réduire le monde à son corps, puisque c'est l'ambition du dictateur, c'est un principe qu'on peut dire philosophique.
Ah oui, c'est un principe philosophique, puisque ça suppose une certaine vision du monde, ça suppose aussi une certaine vision de l'État et une organisation du cosmos.
Et ça suppose aussi une dilatation du moi.
Ah oui, total. Oui.
Dans la dimension du tout.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que le moi devient une sorte de... le microcosme adhère et coïncide entièrement avec le macrocosme.
Et du coup, vous mentionnez les étranges aéroportraits futuristes de Mussolini.
Oui, pour moi, c'est le même phénomène. C'est à savoir que c'est le corps c'était le Duce qui était représenté comme un paysage européen. Et même tout son corps se dilatait dans une carte de l'Europe.
Alors, si le corps du souverain doit, pour enfermer dans la totalité de son enveloppe la totalité du monde, il doit se nourrir de la totalité des produits qu'offre la planète, ou de leur quintessence en tout cas. Et vous rappelez ce que Julien Gracq affirme dans ses lettrines, le pouvoir se savoure au sens propre autant qu'au figuré. Et c'est encore plus vrai, selon vous, pour la Chine.
Oui, c'est-à-dire que le régime alimentaire est quelque chose qui détermine des statuts, en sorte qu'exercer un pouvoir, c'est aussi affirmer en quelque sorte la possibilité d'être nourri de toutes les substances produites par l'univers.
N'empêche que les despotes sont tous des bâtisseurs.
Oui, ils sont des bâtisseurs parce que construire, disons, des bâtiments, c'est encore figurer le monde. Dans la mesure où un palais, en tous les cas les palais chinois, sont des reproductions du cosmos et un souverain doit habiter, en quelque sorte, dans une dimension réduite du cosmos pour en avoir la maîtrise. Mmh. Et tous les objets qui sont autour de lui sont encore des réductions du monde et conjuguent sur différentes, selon différentes modalités, la totalité du monde.
Donc la construction idéale pour un bâtisseur, c'est une bibliothèque ? Une grande bibliothèque.
Ah oui, la bibliothèque. Alors, le livre aussi est, à celui qui le possède, est le monde en réduction. Et ça, on le voit très bien avec la bibliothèque de Borges, et puis dans le roman de Umberto Eco, Le nom de la rose, où la bibliothèque, en fait, c'est la totalité.
Mais un seul livre peut contenir la totalité.
En réalité, une seule lettre même. Et là encore, on est dans Borges avec la lèvre.
Et l'écriture ? Le maître des hommes est maître de l'écriture et des appellations.
Oui, c'est-à-dire que celui qui détient la réalité du pouvoir détient aussi la possibilité et la prérogative de nommer les choses. C'est parce qu'il nomme les choses que le chef est chef. Il suffit qu'il change le nom des choses pour que les choses deviennent autres. Et donc exercer le pouvoir, ce n'est rien d'autre qu'avoir le droit de désigner des choses.
Une autre manière de diriger les hommes, c'est la bureaucratie.
La bureaucratie, là encore, est en rapport avec le langage. La bureaucratie est quelque chose qui est une façon d'organiser le monde. Et les bureaucrates n'ont de pouvoir que dans la mesure où ils détiennent un pouvoir sur les titres, les noms et aussi le langage, l'écriture. Parce que tous les bureaux archivent.
Revenons, Jean Lévy, sur le texte du livre qui vous a donné le titre général « La Chine est un cheval et l'univers une idée ». Donc, texte consacré, on l'a dit tout à l'heure, à Robert Musil, parce que Ulrich, le héros de l'homme sans qualité, renonce à toute ambition de carrière et de gloire après avoir lu dans un journal
un cheval qualifié de génial.
Oui, alors en réalité, cette idée avait troublé Musil lui-même. Musil a décidé d'écrire, dit-il, l'homme sans qualité quand il a entendu une femme s'exclamer qu'un cheval était génial. Et là, il s'est dit que quelque chose se passait dans le monde dans lequel il vivait, et que le fait quelqu'un puisse qualifier un cheval de génial faisait disparaître et l'idée de génie et l'idée de cheval, et que dans une telle société, tout était possible.
Et c'est là qu'est posé le problème de l'adéquation des mots et des choses.
Oui, c'est cela. Et en même temps, c'est posé d'une façon aporétique, dans la mesure où Musil pense que cette perversion du langage, qui fait que la comparaison permet d'appeler n'importe quelle chose de n'importe quelle façon est quelque chose de très mauvais, mais en même temps, il pense aussi qu'un monde où toutes les choses auraient le nom adéquat serait totalement invivable. Et il parle des deux troncs de l'arbre de la vie qui se sont divisés avec la perte de la foi, et que le drame du monde moderne, c'est qu'on n'arrive pas à réconcilier ces deux exigences, à la fois de rigueur et en même temps de poésie. Mmh. Et le roman de Musil, à mon sens, est une façon, par l'art, de tenter cette réconciliation.
Donc Musil a été le témoin du glissement du sens des mots.
Oui, c'est cela. Mais c'est pour cela que je le rapproche des Chinois et d'un phénomène qui a eu lieu en Chine au IVe siècle avant notre ère, qui a été la perversion du langage et la volonté de réinstaurer l'adéquation entre les mots et les choses. Mmh. Et cela a donné, finalement, ou ça a précédé ce problème du langage a précédé l'instauration de l'ordre totalitaire. Et c'est pour ça que je pense, moi, qu'il y a un rapport tout de même entre l'instauration d'un univers totalitaire et cette perte en quelque sorte, de l'efficience du langage, de ça, de son utilisation à bon escient.
Donc vous voulez dire que le nazisme, par exemple, était en germe dans la dérive linguistique que constate Musil.
Oui, mais c'est finalement le constat que fait Klemperer dans sa langue du Troisième Reich, la LCI.
Et vous rapprochez le projet romanesque de Musil du projet philosophique de Wittgenstein.
Oui, puisque Wittgenstein, au début, a cherché l'adéquation et a cherché, dans la description, au plus juste des choses, de rendre compte par le langage de la réalité du monde. Et puis il s'est rendu compte que sa tentative conduisait à un échec, de la même façon que Musil se rend compte que sa tentative, ou plutôt ses tentatives diverses, de redonner en quelque sorte la précision voulue aux mots, est conduit à une impasse. Et donc, à la fin, Wittgenstein arrive finalement à une intuition de type poétique.
Donc, Musil, Wittgenstein, Confucius, même combat.
Pas tout à fait, parce que Confucius, lui, a senti qu'il y avait une dérive et un glissement pervers dans le sens des mots, mais il n'a pas vu en même temps que sa volonté de restaurer en quelque sorte la pureté du langage était totalement chimérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'autre aspect du langage, c'est-à-dire cette dimension poétique. Alors que justement, Zhuangzi, qui vient deux siècles plus tard, lui a bien senti qu'il y avait cette dimension, en quelque sorte, intuitive et poétique du langage qui devait servir pour lutter contre les dérives totalitaires.
Ouais. Et aujourd'hui, alors, Jean Lévy, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il y a la petite phrase que j'ai lue pour ouvrir l'émission, où vous dites qu'à notre époque, le pouvoir de la parole et la parole du pouvoir ont fini par coïncider.
Alors là, c'est une idée que l'on retrouve aussi chez Adorno, c'est-à-dire que le langage de la publicité et le langage politique ont fini par coïncider absolument. C'est-à-dire qu'un slogan publicitaire et un mot d'ordre politique sont une seule et même chose. Et donc ce fonctionnement, en quelque sorte, le pouvoir politique a réutilisé à ses propres fins ces procédés de langage qui permettent en quelque sorte de manipuler entièrement tous les concepts.
De telle sorte qu'aujourd'hui la langue n'est pas plus mensongère que le monde.
Oui, en ce sens, c'est une langue tout à fait adéquate à son objet et elle correspond dans son mensonge au mensonge du monde.
C'est-à-dire qu'on vit dans l'auto-persuasion. Dans un monde de simulacres et de faux-semblants.
Oui, c'est cela. C'est le monde, finalement, de la représentation.
Le texte qui conclut ce livre, « La Chine est à cheval et l'univers une idée », Jean Lévy, vous l'avez intitulé, c'est un titre qui peut rappeler à certains des souvenirs, « Autocritique ».
Ah oui, le « Autocritique », là aussi, je pars d'un phénomène qui est très connu, et qu'on analyse toujours un peu, ou qu'on analysait toujours un peu de la même façon, à savoir comme exercice qui vise à la négation du moi. C'est par exemple, quand on lit London, l'aveu, on voit que l'autocritique vise à détruire totalement l'individu. À partir du moment où il fait l'aveu et où il s'accuse, il s'auto-accuse, il est en quelque sorte éliminé comme personne. Disparaît entièrement comme être humain. Et j'essaie de montrer le contraire. J'essaie de montrer comment, dans certaines sociétés, dans certaines circonstances, l'autocritique, l'accusation, peut servir à, au contraire, être une réhabilitation et une exaltation du moi.
Vous citez aussi un roman chinois contemporain qui s'intitule « Je suis ton papa ». Où l'autocritique est traité sur le mode satirique et joue ainsi un rôle central.
Ah oui, c'est central. Disons, le moment le plus fort du roman, c'est quand le père doit écrire pour son fils une autocritique. Et le fils ne veut plus, il appartient à une autre génération, il ne comprend pas qu'on lui demande l'autocritique. Et le père est passé champion dans la rédaction d'autocritique. C'est quelque chose qui, loin de l'humilier, est quelque chose qui le gratifie et le transfigure. Parce qu'il est un artiste de l'autocritique. Et à travers cet exercice dégradant, il arrive à affirmer, disons, son égo. Et non seulement, mais en plus, à manifester ses dons littéraires.
C'est-à-dire que l'autocritique permet l'exaltation de l'égo.
Oui, dans ce cas-là, oui. Mais bien souvent, même dans notre pratique, c'est le cas. On peut s'accuser pour se justifier.
Alors, il y a aussi un chapitre qui se trouve à la fin du livre et qui est consacré à une étude critique de la dimension et des attributs des massacres.
Alors, disons là, je suis parti de faits chinois. Et cette réflexion m'est venue quand j'ai commencé à écrire Le Grand Empereur et ses automates, qui était mon premier roman, où je me suis rendu compte que tous les chiffres qui étaient donnés sur les morts, sur les déportations et sur les massacres étaient extravagants et que tous les historiens les mettaient en doute. Et à partir de ce moment-là, l'histoire même du grand empereur disparaissait. Elle s'évanouissait comme totalement invraisemblable. Or, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer, au contraire, que ces chiffres étaient intéressants dans la mesure même où ils étaient invraisemblables. Et alors, à partir du moment où les chiffres sont invraisemblables, mais existent dans leur invraisemblance et par leur invraisemblance, on est obligé de se poser la question de la pertinence de l'histoire. Car l'histoire s'intéresse à ce qui est vrai, mais à travers le critère de vraisemblable. Et à partir du moment où quelque chose est invraisemblable, elle doit, en bonne logique, le mettre en doute. Or, un certain nombre de phénomènes qui sont inhérents à l'histoire et qui sont constitutifs de l'histoire, comme l'élimination de populations entières dont il ne reste plus de traces, à partir de ce moment-là, ne font plus partie, ne sont plus du ressort de l'histoire. Donc ça, c'est la démarche historique qui, à travers cette simple constatation que certains chiffres sont invraisemblables, c'est donc toute la démarche historique qui est remise en cause.
Le livre de Jean Lévy, « La Chine est un cheval et l'univers une idée » est publié chez Maurice Nadou. Du jour au lendemain, Claude Niort, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.